Bonsoir mes frères et sœurs. Il est sûr que plus le retour de Jésus approche, et plus nous avons besoin d'une parole de Dieu, personnelle, précise. Dimanche, nous avons dans la conclusion pris ce verset dans les Actes au chapitre 18 que nous allons relire, Actes 17. Ce texte parle du jugement. Il y a beaucoup de textes sur le jugement. Actes chapitre 17, au verset 30, Dieu enseigne à tous les hommes qu'ils doivent, s'ils veulent aller au ciel, se repentir. Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Dans le calendrier du Seigneur, il y a un jour qui a été fixé où Dieu va juger le monde. Ce jugement approche. Même les pécheurs, même les incroyants sentent, si c'est un mot qu'on peut utiliser, qu'il va se passer quelque chose. Tout le monde le perçoit. Et pour cela, je voudrais prendre un verset qui nous parle de cette sévérité du Seigneur. Parce qu'on peut parler, comme on le dit, et on a raison, de l'amour de Dieu. On peut en parler constamment. Dans le Proverbe 29, il y a un verset, moi, qui m'a arrêté. Je méditais hier, et c'est un verset qui m'a arrêté. Vraiment arrêté. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ce jugement approche, que la colère de Dieu vient, une fois que l'Église sera enlevé de la terre, des temps terribles vont arriver sur toute la terre. Et regardez un verset dont plusieurs font allusion au même enseignement dans le Proverbe 29, verset 1er. Je pense que c'est des versets que l'on pourrait prendre avec nos enfants parfois. Vous qui avez des enfants petits, j'espère que vous faites le partage avec vos enfants. Profitez-en tant qu'ils sont petits. Proverbe 29, verset 1er. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup, sera brisé subitement et sans remède. Voilà une expression terrible. Elle est dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que je pourrais vous prêcher ce soir sur Jean 3,16, pendant des réunions d'affilée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous savez, on prend souvent ce verset, vous connaissez ce verset, c'est le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16. Mais si vous lisez tout le chapitre de Jean, juste quelques versets après, il est dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et nous sommes responsables, les pasteurs, d'avoir enseigné tout le temps en boucle que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est patient, que Dieu est miséricordieux. Mais en vérité, Dieu garde ses enfants obéissants, ceux qui vivent dans l'obéissance. Et s'il est vrai que l'amour de Dieu est infini, s'il est vrai que la patience de Dieu est immense mais qu'elle a des limites, c'est ce qu'on va voir ce soir, il est aussi vrai que Dieu est saint et que Dieu est juste et que la justice de Dieu apparaît aussi continuellement dans la Bible. Le problème, c'est qu'on a enseigné tellement l'amour, la bonté, la douceur, que ça a créé une espèce de faux espoir, à savoir que Dieu est trop bon pour punir les méchants, Dieu est trop bon pour punir les pécheurs, et que des millions d'âmes croient à la sécurité éternelle. C'est rentré presque dans toutes les églises du monde. C'est catastrophique, c'est diabolique. Et je voudrais ce soir que nous partagions certaines choses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus pas la crainte de Dieu. Est-ce que vous entendez? Et je n'ose pas vous dire ce que j'entends parfois dans la bouche de certains chrétiens, ce qu'ils s'autorisent, ce qu'ils peuvent faire au nom de l'amour de Dieu, au nom de la liberté, etc., etc. Et quand on n'a plus la crainte de Dieu, c'est que quelque chose manque, ou c'est que quelque chose n'a pas été acquis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Car s'il y a bien une chose qui garde quelqu'un, c'est la crainte de l'Éternel. En plus, c'est le commencement. Et vous qui allez prendre le baptême, sachez une chose, que la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect de la parole, est le commencement de la sagesse. Donc, un véritable chrétien commence à acquérir de la sagesse. Tout à l'heure, quelqu'un a prié, « Seigneur, donne-nous du discernement. » C'est vrai qu'il faut du discernement pour aborder tous les problèmes que nous rencontrons. Mais je ne vois pas comment Dieu pourrait nous donner du discernement si on n'a pas la crainte de son nom dans sa parole. Et les gens aujourd'hui vivent dans le péché, ils vont à l'église le dimanche, et toute la semaine, ils font ce qu'ils veulent à leur guise, ils ne s'inquiètent pas, ils ont perdu la conscience, et c'est quelque chose de grave parce que ça ne leur permettra pas d'être prêts lorsque le Seigneur Jésus va revenir, à tel point qu'aujourd'hui, on enseigne même qu'il n'y a même pas besoin de passer par la repentance. D'ailleurs, il y a des nouvelles versions bibliques où le mot repentance a été complètement enlevé. Pour vous dire, et les gens lisent la Bible sans avoir entendu une seule fois dans leur vie qu'il faut passer par la repentance. Et c'est vrai que c'est bien de parler de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est bien de parler de l'amour de Dieu? Bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler. De toute façon, même quand la prédication elle est sévère, vous soupçonnez derrière que c'est quand même l'intention de Dieu de manifester son amour. Mais si nous voulons parler de l'amour de Dieu, si nous voulons parler, comme on l'a fait en introduction dimanche, du fait que Dieu nous garde, que Dieu garde ses enfants, il nous faut parler aussi de tous les aspects de son caractère, à savoir que Dieu est un Dieu saint. Sa patience a des limites. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Dieu sait ce qu'il nous faut. Est-ce que Dieu sait ce qu'il vous faut? Eh oui, il le sait. Dieu sait ce que vous avez besoin d'entendre, ce que moi j'ai besoin d'entendre, ou de réentendre. Parce qu'il sait très bien que parfois on a besoin d'entendre une chose une dizaine de fois. Comment vous lisez ce verset, vous? Vous le lisez comment? Si vous deviez dire à quelqu'un, c'est quoi ce verset? C'est quoi? C'est un enseignement? C'est un avertissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce premier verset nous dit qu'il faut faire attention à la façon dont on écoute. Déjà, vous percevez quand vous lisez ce texte que Dieu veut reprendre les gens, que Dieu veut leur parler d'une façon ou d'une autre, mais que l'homme a le pouvoir de refuser d'écouter. Beaucoup de chrétiens n'entendent rien. Ils sont capables de dire « la prédication était intéressante », mais ils n'écoutent pas l'enseignement, comme tout à l'heure le don spirituel s'adressant à quelqu'un qui est insoumis, qui n'écoute rien. Et la Bible dit que celui qui ne se soumet pas aux autorités, il s'attire une condamnation. Et moi j'ai entendu, l'autre jour on m'a appelé, il y a un pasteur qui m'a dit, mais écoute, dans mon église, j'ai un chrétien, il ne se soumet pas, il n'écoute rien, il dit qu'il fait ce qu'il veut, que s'il veut rouler à la vitesse qu'il veut sur la route, c'est son problème. J'ai dit, mais c'est un rebelle. Et parce qu'il est chrétien, il s'imagine qu'il a été appelé à la liberté et qu'il fait ce qu'il veut. C'est une personne qui n'est même pas passée par la repentance. Et pourtant, il se dit chrétien. C'est pour ça que je vous dis qu'on enseigne des choses qui sont graves. Une personne qui raidit le coup, c'est quelqu'un qui écoute et qui ne réagit pas. C'est ça. Dieu lui parle, Dieu lui dit, tiens, il y a ça qui ne va pas, tu devrais réfléchir, tu devrais te corriger, tu devrais arrêter. Par exemple, pour reprendre le don spirituel, de vivre comme un rebelle, la personne, elle l'entend, elle sait que c'est vrai, elle est même d'accord, mais elle n'écoute rien, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Je vais faire toute une prédication là en septembre pour aider les chrétiens qui sont tout le temps dans l'illusion. Tout le temps dans l'illusion. À tel point qu'il y en a quand même qui ne vont plus à l'église, qui disent, mais Dieu voit, je fais à ma façon, mais Dieu voit. Mais frères et sœurs, je crois que nous avons besoin de la parole de Dieu dans sa maison. Nous devons réfléchir à l'amour de Dieu, c'est une vérité, à la patience de Dieu. Nous devons méditer la sévérité de ses paroles. Est-ce qu'un verset comme ça mérite qu'on s'y arrête? Mais moi, il me semble que oui. Vous connaissez ce texte, ne le cherchez pas dans le Proverbe 2, dans le Proverbe 5, il nous est parlé de la réflexion. La Bible dit « réfléchis ». Réfléchis sur les choses, la réflexion veillera sur toi. Sois attentif afin que tu conserves la réflexion. Et beaucoup de personnes, n'ayant pas réfléchi, n'ayant pas écouté, ont commencé à redire leur cou, mais en vérité, c'est leur cœur. Et malgré le fait que Dieu est amour, que Dieu est pardon, que Dieu est miséricorde, etc., eh bien, non, Dieu n'a pas pu réparer les brèches, parce qu'on peut parler de Dieu qui est amour, mais que Dieu est réparateur des brèches, et pourtant beaucoup de chrétiens n'ont pas été réparés pour la simple et unique raison qu'ils sont restés dans cet état de cœur. On peut prendre notre texte, regardez dans le Proverbe 6, des versets comme ça, il y en a. Hein. Et s'il y en a plusieurs, c'est que c'est important. Regardez, Proverbe chapitre 6, verset 12, c'est le même principe des gens qui se raidissent, qui n'obéissent pas. Proverbe 6, verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Oui, il se trompe lui-même. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Je vous rappelle que c'est le Seigneur qui parle de ces situations qui seront catastrophiques, une expression qui est très facile à comprendre, sans remède. Il arrive un moment dans la vie, quand on n'écoute pas, où Dieu dit, il n'y aura pas de remède. C'est terrible quand quelqu'un vous dit, il n'y a pas de remède. Il n'y a rien, c'est comme ça. Et vous savez mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez vous moquer du pasteur, vous pouvez vous moquer de votre patron, vous pouvez vous moquer des gens, et ça vous fait rire. Mais riez. Mais mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est pas parce qu'on arrive à blouser plein de gens, à berner plein de gens, mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Et nous sommes dans le royaume de Dieu, on n'est pas dans le monde où les gens se mentent, se trompent, se bernent les uns les autres. Nous sommes dans le Seigneur. Et il y a plein d'exemples dans la Bible, ça a été laissé par Dieu. Regardez ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorre. Combien de fois Dieu a parlé, combien de fois Dieu a voulu intervenir. Et Dieu a patienté. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas quand on lit la Bible pour la première fois. Par exemple, quand on voit Josué qui intervient dans le pays de Canaan, et qui détruit toutes ces villes, on se dit, oui, mais c'est quand même... Et ça, quand est-ce que Dieu l'avait dit, maudit soit Canaan, dans la Genèse? Vous savez combien de temps s'est passé entre le fait que Dieu ait dit, il y aura la malédiction sur Canaan, et quand Josué est intervenu? 1800 ans. On ne se rend pas compte? 1800 ans, Dieu a patienté. Alors on pourrait prendre les textes où Dieu a voulu parler. Mais dès que quelqu'un crie à Dieu, Dieu le sauve. Regardez par exemple Rahab, la prostituée, à Jéricho. Ils savaient, ils avaient tous entendu parler. Et Rahab a dit, préservez-moi, préservez-moi. Et pourtant, elle habitait où, Rahab? Elle habitait sur la muraille. Toute la ville s'est écroulée, toutes les murailles, sauf sûrement l'endroit où elle habitait. Vous voyez que Dieu est bon. Mais sa colère, elle vient. Même si c'est des centaines d'années après, ça fait 2000 ans que le Seigneur parle de son jugement. Et ça fait rire les gens. Moi, j'ai vu une fois une émission à la télé parce qu'ils avaient invité des spécialistes de la religion. Et ils avaient invité un spécialiste des prophètes. Ils auraient dû m'inviter. Un spécialiste des prophéties. Et il y avait un grand docteur de théologie qui se moquait de Jésus. Et il parlait de Jésus, il disait, mais regardez ce fameux maître de Galilée qui a dit dans l'Apocalypse, je viens bientôt. Et il s'arrêtait, il n'arrêtait pas de jacasser pour expliquer que Jésus était qu'un menteur parce qu'il avait dit qu'il venait bientôt et que ça faisait 2000 ans que ça durait. Mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Dieu patiente et sa patience est infinie, mais sa patience a des limites. Et à Sodome et Gomorre, ils ont ajouté la perversité, ils ont ajouté le péché tant qu'ils voulaient, l'infamie, la débauche, la pollution, tout ce que vous voulez, mais Dieu est intervenu. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans Thessaloniciens au chapitre 2. On peut le lire ce texte parce que vraiment il me revient souvent à l'esprit de tous ces gens qui commettent péché sur péché et qui s'imaginent qu'ils vont s'en tirer à bon compte. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. C'est une parole qui résume bien les exemples que l'on va voir ce soir. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, enfin, 16, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Vous voyez, les gens qui accumulent péché sur péché, ils mettent le comble au péché, mais qu'est-ce que Dieu dit? La colère a fini par les atteindre. Les gens ne se rendent pas compte. Cette colère, elle vient. Et qu'est-ce que Dieu fait? Soudainement, sans rien dire à part prévenir Lot, et encore les anges, ils ont eu du mal à le sortir de... Quand on se demande comment c'est possible, que les anges étaient obligés de le prendre par la main et de le tirer dehors. C'est quand même quelque chose de terrible. Et soudain, Dieu envoie le feu du ciel. Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre 2. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, mais vous savez, ce sont des choses qui ont été écrites. Regardez pourquoi ça a été écrit. 2 Pierre, chapitre 2. Eh bien, on va lire à partir du verset 1. Ce sont des choses, vous savez, ça a été écrit pour les chrétiens. Les chrétiens ne croient pas ces choses, les chrétiens ne lisent pas ces choses. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, donc vous avez vu, parmi vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire dans les églises, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Quand les gens disent qu'on ne peut pas perdre le salut, vous allez voir les versets qu'on va lire ce soir. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde impie, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, regardez bien, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ces choses, elles sont là en exemple. C'est pour qu'on puisse réfléchir afin de ne pas faire partie de ces gens qui mériteront d'être repris et qui vont redire leur coup. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous réfléchissons à ces choses. Peut-être, et je le dis et je l'ai toujours pensé, les pasteurs sont responsables de ne pas avoir enseigné que le jugement de Dieu vient, que la colère de Dieu vient. Mais pour que le jugement vienne et pour que la colère de Dieu vienne, l'Église doit être enlevée. Donc ça nous interpelle à nous afin que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, on parle d'une ville ou de deux villes. On peut parler aussi d'un homme. Regardez ce qui est arrivé à Hérode, Actes chapitre 12. Voilà, on va voir que ça s'adresse à des villes, à des hommes, et tout à l'heure, ça s'adresse à des pays. Des gens qui se croient au-dessus des lois. Il y en a plein. Vous ne croyez pas qu'en France, il y en a des gens qui se croient au-dessus des lois? Actes chapitre 12, verset 21. À un jour fixé, il y a des jours comme ça, il faut y réfléchir. Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Il était tellement doué, cet homme, dans les paroles. Regardez. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Vous voyez, Hérode, tout ce qu'il avait fait avant. Vous voyez, quand il a fait décapiter Jean-Baptiste. Mais certains passages dans la Bible sont relevés pour qu'on comprenne bien ce verset des Proverbes qu'on a lu, que ceux qui méritent d'être repris, Hérode, il aurait dû se repentir. Et il ne s'est pas repenti. Est-ce qu'il aurait pu se repentir et demander pardon? Oui, mais il a redit, il s'est braqué parce que monsieur se croyait au-dessus des lois. Le résultat, c'est que Dieu est intervenu. La colère a fini par l'atteindre, ça a été sans remède. Et notre génération, et beaucoup de chrétiens, je vous assure, moi ça me brise le cœur, des gens qui ne supportent plus aucunement d'être repris. Alors que moi je dis que c'est une grâce d'être repris. Est-ce que vous croyez que c'est une grâce d'être repris? Mais bien sûr. Donc, deux villes, Sodome et Gomorre. Là, on voit un homme, mais la Bible parle des nations entières. Regardez 2 Chroniques 36. C'est important que nous comprenions bien les choses. Les gens sont un petit peu mélangés au niveau du jugement. C'est normal, on n'en parle jamais. 2 Chroniques 36. Ça faisait 300 ans, je crois, que ça durait à peu près, que les nations de Juda, enfin les tribus, oui, le royaume de Juda était gouverné par des gens plus méchants les uns que les autres, ils pensaient qu'à faire le mal. D'ailleurs, je suis en train de compter la liste des rois qui ont bien marché avec Dieu, il n'y a pas beaucoup, hein, et des rois qui ont mal marché avec Dieu, c'est un peu plus long. Vous voyez, 2 Chroniques chapitre 36, quand je l'aurai fait, je vous donnerai le nombre. 2 Chroniques 36, on va lire à partir du verset 11. Encore un roi. Regardez bien, mes frères et sœurs. Ça a été écrit, ces choses, pour notre instruction. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant Jérémie le prophète, ce qui prouve que Dieu lui avait parlé. Voyez, ça, ce n'est pas la peine d'être très intelligent, on comprend. Il ne s'humilia pas devant Jérémie le prophète qui lui avait parlé de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou. Vous voyez comment ça nous ramène au texte. Il raidit son cou, endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions. Vous voyez, c'est pas un ou deux, tous. Moi, ça me brise le cœur quand je vois ça. Tous les chefs, vous voyez, multiplièrent leurs transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Oui, ils ont été avertis plusieurs fois. Car ils voulaient épargner son peuple et sa propre demeure. Vous voyez que Dieu les aime. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait les épargner. Vous voyez, c'est clair que Dieu est bon, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Encore, il n'y a plus de remède, c'est la preuve que le jugement de Dieu est prêt, que les gens sont mûrs. Ils sont mûrs pour la colère. La Bible en parle dans le Nouveau Testament. Vous vous rendez compte, ça fait mal au cœur. Jusqu'à ce que la colère de Dieu contre son peuple devienne sans remède. Vous relisez le contexte que Dieu a utilisé des pasteurs, des prophètes, etc. pour leur parler. Ils se sont moqués. Mais c'est ce qui se passe dans plein d'églises. Aujourd'hui, vous passeriez une prédication, il y a beaucoup de gens comme ça qui riraient. Les gens se moquent des pasteurs, les gens se moquent des églises, les gens se moquent de la parole du Seigneur. Encore qu'ils se moquent des pasteurs, c'est pas grave, mais en fin de compte, ils se moquent du Seigneur Jésus. Et ces textes, je sais pas, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Moi, c'est des textes qui m'interpellent, que Dieu me met à cœur, certainement. Pourquoi? Parce que je vois bien. Et les gens qui sont, quand même, qui ont les yeux fixés sur le Seigneur, voient bien que Jésus va venir. Et que ça va être sans remède. Dieu parle, vous croyez que Dieu parle dans les églises, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens sont rebelles, ils se moquent de la parole. Il y a un pasteur qui a dit à un jeune qui est venu dans l'église, il a dit, si Monsieur Go, il vient dans mon église, il y a la moitié des gens qui s'en vont. Il sait très bien, ce frère, que les gens n'accepteront pas une prédication sur la repentance. C'est grave, mes frères et sœurs. Toujours se rebeller contre Dieu, toujours trouver une occasion de dire « Mais non, je fais ce que je veux, la conscience des autres, je m'en fiche. » Vous avez vu ce qu'on a lu dimanche matin par rapport à la conscience des autres. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Vous savez, en vérité, ce matin, hier, quand je méditais, je pensais parler de Acab et de Jézabel. Ce couple qui s'entendait très bien, ils s'entendaient bien, mais pour faire le mal. Il y a des gens qui s'entendent bien pour faire le bien. Mais je peux vous dire qu'eux, ils se sont entendus pour faire le mal. En vérité, je voulais parler que d'eux. Et je vous conseille, vous qui méditez, de lire 1 Roi, chapitre 21. S'il vous plaît, demain matin, pendant votre culte, lisez ce chapitre. Et vous remarquerez, maintenant que je vous le dis, tous ceux qui vont intervenir. Dieu avait parlé, vous connaissez l'histoire d'Acab. et de Jézabel quand Dieu est intervenu au travers d'Élie. Vous croyez que Dieu savait parler au travers d'Élie? Vous connaissez cette affaire quand le feu du ciel est descendu? Vous vous rappelez? Et est-ce que Dieu ne pouvait pas parler à Achab et à Jézabel ce jour-là? Est-ce que Dieu leur avait pas parlé? Oui. Et ils se sont endurcis. Et cet homme, il est devenu mais bête. C'était le roi. Il est devenu méchant. Il a convoité une vigne qu'il y avait à côté de chez lui. Le roi, vous voyez, il s'occupait. Il voulait une petite vigne. Peut-être qu'il voulait faire pousser des arbres. J'en sais rien. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et puis, il est rentré à la maison. Il a dit à sa femme, il était triste. Il boudait. Il boudait. Le roi, il boudait parce qu'il ne pouvait pas acheter un lopin de terre qui était à côté de chez lui pour en faire certainement un petit jardin d'agrément. Et sa femme, qui était très, très, très spirituelle, lui a dit, mais qui c'est qui gouverne en Israël? C'est pas toi qui gouverne? Et je vais te montrer comment tu vas la voir, cette vigne. Enfin, je vous le résume. Hein. Et quand vous voyez dans cette histoire où Dieu avait parlé tant et tant de fois à Achab et à Jézabel, comment leur cœur s'est raidi et tout le monde a été corrompu là-dedans. Il n'y a pas que Achab et Jézabel. Ils ont trouvé des faux témoins, les juges, les magistrats, tous ceux qui sont intervenus étaient tous corrompus. Je voulais vous parler de ça. Et en fin de compte, j'en reste à ma petite introduction. Ce chapitre nous montre quoi? Que le cœur des hommes est de plus en plus impénitent. C'est un mot que vous n'entendez pas souvent. Mais c'est un mot qui vient dans la parole de Dieu. D'ailleurs, tout à l'heure, on n'a pas lu, mais dans Actes, non, c'est pas dans Actes, c'est dans Romains au chapitre 2. On va y aller voir ce texte. La Bible parle des cœurs impénitents. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un cœur impénitent? Vous n'entendrez pas souvent ça à la télé, mais dans l'église du Seigneur Jésus, vous entendrez ce mot. Dans Romains au chapitre 2, il en est parlé de ces gens-là. Vous lirez l'histoire d'Achab et de Jézabel, hein? Et pourtant Dieu avait envoyé quelqu'un de costaud, là. Élie, c'était quelqu'un. Hein? Comment Dieu a voulu leur parler? Comment Dieu a voulu les bénir? C'est terrible, c'est quand ça devient sans remède. Hein? Et je pense que notre monde, il est mûr pour le jugement. Vous le croyez? Franchement, est-ce que vous le croyez que le monde est mûr pour le jugement? Regardez tous les chapitres qui précèdent et vous allez voir si Dieu n'était pas rempli de bonté. Et quand il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de remède. Et oui, regardez ce texte. Romains chapitre 2, verset 3. « Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les font ? Que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Parce que les gens ils s'imaginent que comme Dieu n'agit pas, on peut faire ce qu'on veut, on va échapper au jugement. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité ?» Vous savez ce que c'est la longanimité ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? La longanimité, il n'y a que Jésus qui l'a eu en fin de compte. La longanimité, c'est la patience dans la souffrance. Parce que patienter, on peut patienter. Mais patienter comme Jésus a patienté au calvaire, vous comprendrez que c'est pas de la patience, c'est de la longanimité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus a été jusqu'au bout à cause de son immense patience. On pourrait dire une immense et profonde patience à la place. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Un cœur impénitent, c'est quoi? C'est un cœur qui refuse de changer. Comme les habitants de Sodome, comme les habitants de Gomorre, comme les gens du temps de Noé, comme Achab et Jézabel qui étaient pleins de méchanceté. Il est dit de cette femme qu'elle excitait son mari au mal. Les jeunes, si vous devez vous marier, ne vous mariez jamais avec quelqu'un qui vous inciterait à faire le mal. Parce que ça finira pas bien. Et si je vous conseille de lire un roi chapitre 21, c'est parce que il y a quand même des comportements dans le couple qui amènent vraiment la malédiction du Seigneur. Oui, Dieu est patient. Oui, Dieu est longanime. C'est vrai que je ne sais pas si aujourd'hui vous entendrez ce mot, même dans les églises. Dieu a une immense patience, mais sa patience a un terme. Son amour n'a pas de limite, mais sa patience liée à sa justice et à sa sainteté ont obligatoirement un terme. Et c'est vrai que sa patience peut nous agacer. Soyons honnêtes, la patience de Dieu, elle peut nous fatiguer. Des fois, on se dit, mais Seigneur, si tu intervenais là, ça serait un petit peu plus. Vous ne croyez pas que des fois, ça vous est jamais arrivé de dire, tiens, mais moi, si j'étais à la place de Dieu, vous voyez, de la philosophie, hein. Si j'étais à la place de Dieu, quand vous avez déjà vu des reportages sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les camps de concentration. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, tu vois, Seigneur, moi, à ta place, ben, j'étais jeune converti, hein. J'étais bête. Hein. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, si j'avais été à ta place, là, je serais intervenu. Et c'est vrai que la patience de Dieu, ça nous remet, ça nous pose des questions. D'autant plus qu'il y a des choses qui sont archi-pénibles. Regardez dans Ecclésias, il y a un verset qui l'explique bien. Moi, c'est un verset qui me va bien, parce que ça explique bien ce que je veux vous expliquer. Dans l'Ecclésias, au chapitre 8 et au verset 11, il y a un verset qui en dit long sur ce qui se passe dans notre société, enfin, dans le monde, parce qu'avant, c'était peut-être dans certains pays rebelles. Maintenant, je crois que c'est dans tous les pays du monde. Tous. Ecclésias, chapitre 8, verset 11. Regardez bien ce verset. Parce que vous avez vu dans les rues, à Noël, par exemple, on brûle des voitures. Vous avez vu, ils font la fête en brûlant des voitures. Et qu'est-ce qu'ils font l'année d'après? Ils recommencent. Ecclésias 8, verset 11. Vous avez la réponse là. Vous l'avez là, la réponse. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, qu'est-ce qui se passe quand on ne punit pas? Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Quand on ne punit pas les gens, eh bien ils ont le cœur rempli du désir de recommencer. Et c'est là qu'on pourrait dire, Seigneur, mais pourquoi tu n'interviens pas? Parce que si Dieu intervenait, je ne pense pas qu'il interviendrait comme nous, on l'imagine. Là aussi, on a besoin de discernement. Le jugement a atteint Akab et Jézabel. Mais eux, ils se croyaient au-dessus des lois. Mais est-ce qu'il n'y a que les Akab et les Jézabel de l'Ancien Testament qui se croient au-dessus des lois? Vous savez, ce matin, quand je priais et que je préparais cette prédication, je me suis demandé si cette prédication, Dieu n'avait pas mis ça sur mon cœur pour quelques ministres qui seraient peut-être amenés à écouter ça. Parce que laissez-moi vous dire que personne n'est au-dessus de la loi de Dieu. Si les gens se mettent au-dessus des lois des hommes et qui se croient protégés, laissez-moi vous dire que lorsqu'ils vont passer devant Dieu, ça va barder. On ne se moque pas de Dieu. Sa patience est infiniment grande qu'on peut même parler de longanimité. Mais mes frères et sœurs, la colère de Dieu va finir par les atteindre. On l'a lu, penses-tu au homme qui commet de telles choses que tu échapperas au jugement de Dieu? Et c'est ça, les rois, les ministres qui ont tant et tant de pouvoir se croient inatteignables. Regardez Belshazzar, on pourrait en prendre, c'est quand même dans la Bible, c'est vrai qu'on peut parler de l'amour et de l'amour et de l'amour, et comment le Seigneur s'est adressé à la Samaritaine, et à la femme pécheresse, et à la femme adultère, etc. Et il faut le faire, l'évangélisation c'est cela, mais mes frères et sœurs, une fois qu'on est chrétien, on a cette sainte crainte. On a le désir de faire attention à ce que l'on dit, la façon dont on se comporte, le témoignage que l'on rend, même quand on en est tout seul. Parce que le Seigneur, il voit toute chose. Belshazzar, il a pas voulu. Il y avait Daniel qui habitait à 300 mètres de chez lui. Je dis ça. Il était là. Il ne le savait même pas. Il ne savait même pas. Alors que Dieu avait été, il avait été en bénédiction pour son père. Nebuchadnezzar, il avait fait, il le savait même pas. Mais combien de gens ne savent même pas que nous avons un livre merveilleux et qui peut nous éclairer justement sur ces choses. Belshazzar, il n'a pas voulu, c'est écrit. Tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu saches, toutes ces choses. Mais il se croyait au-dessus de loi, comme ces ministres de notre gouvernement. Et je vous assure, nous qui parfois sommes peut-être ulcérés par ce que l'on voit, quand on voit ces gens qui détournent des millions, et tout ce qu'on ne sait pas. Mais croyez-moi mes frères et sœurs, le jour du jugement, tout ça, ça va passer. Même si nous, ça nous dérange un peu, que ça soit pas rapide, mais croyez-moi, le jugement les atteindra. Mes frères et sœurs, nous devons être sérieux. La devise de Belshazzar, c'était « mange, bois, réjouis-toi », alors que ce n'est pas interdit de se réjouir. Mais quand il n'y a que ça dans la vie, ça ne va pas. Et un jour, vous savez ce qui s'est passé pour Belshazzar. J'ai pris tout à l'heure trois exemples, j'en prends un quatrième. Belshazzar, à un moment donné, il avait bu un peu trop, il avait fait la fête, il avait fait le malin. Et puis tout d'un coup, il y a une main qui est apparue et qui a écrit sur le mur de la salle à manger. Vous vous rappelez ce que Dieu a écrit ? Comptez, comptez, pesez et divisez. Et il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce qu'il n'était pas très familier avec les choses de Dieu, croyez-moi. Et c'est là que quelqu'un a dit, mais tu sais pas que dans le royaume, il y a un gars qui s'appelle Daniel, il va t'éclairer. Et ils l'ont fait venir, et là c'était pareil, le jugement a été sans remède. Tout ça c'est écrit, mes frères et sœurs, c'est sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? En français courant, on pourrait dire, mais voilà, quand Dieu dit ça suffit, ça suffit. Quand c'est terminé, c'est terminé. Ne nous entêtons pas, soyons des gens intelligents. Si le Seigneur nous reprend, acceptons d'être repris. Alléluia. Si le Seigneur nous dit, voilà, ça va pas, et bien, mais merci, ça va loin cette affaire. Nous, on n'ose pas en parler parce que ça va tellement mal, c'est pas la peine de décourager les chrétiens. Mais c'est pas pour vous décourager que je vous dis ça. Moi, c'est pour vous aider. Regardez à Corinthe, on en parle des fois lorsqu'on prend le pain et le vin, mais suite à cette prédication, ça a un petit peu plus d'effet. À Corinthe, il est même dit qu'il y a des chrétiens qui sont tombés malades et qui sont même morts parce qu'ils n'ont pas accepté d'être repris. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Parce qu'on pourrait me dire, oui, mais tu as pris beaucoup de textes de l'Ancien Testament. J'ai pris aussi beaucoup de textes du Nouveau Testament. Quand Dieu nous parle, bien, réagissons joyeusement. Mes frères et sœurs, il est dit que Jésus va revenir et qu'il ne prendra pas ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'il y a plein de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ce n'est pas écrit comme ça, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 5 à 8. Il ne prendra pas ceux qui ne veulent pas le connaître et ceux qui n'obéissent pas à la parole. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Moquez-vous des uns, des autres, tant que vous voudrez. Ce n'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Il n'y aura pas de conséquences peut-être, c'est ça que je veux dire. Mais de se moquer de Dieu, laissez-moi vous dire que ça aura des conséquences éternelles. Et des conséquences graves. Parce que le problème, en fin de compte, c'est quoi que je voudrais que nous retenions de cette soirée? C'est qu'en fin de compte, que quand Dieu intervient avec sa justice, c'est trop tard. Est-ce que vous avez compris? Tous les exemples que l'on a pris nous prouvent qu'à un moment donné, quand Dieu intervient, il n'y a plus de remède. C'est pour ça que l'expression, je l'ai pris volontairement plusieurs fois, ça sera sans remède. Quand la trompette sonnera, ça sera trop tard. Moi j'ai entendu des gens qui ont dit, même des sermons sur internet, que quand la trompette sonnera, les gens ils vont se repentir et ils vont partir. Mais ça c'est diabolique ça. Parce que quand la trompette sonnera, laissez-moi vous dire que ce sera trop tard. Ça sera trop tard. Dieu a fixé un jour. Vous savez, Dieu est d'une précision micrométrée. Vous le croyez, ça? Regardez avec moi, parce que ce n'est même pas une question de jour. Regardez, Apocalypse. Regardez, c'est tellement... Vous savez, je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Peut-être que je vais vous aider à mieux la lire. En tous les cas, c'est mon but. Apocalypse 9, verset 15. Ce sont des choses qui se passent après l'enlèvement, ça. Les gens qui liront ça après l'enlèvement regretteront de ne pas l'avoir médité avant, croyez-moi. Apocalypse 9, verset 13. Ça, c'est une guerre qui va se passer au-dessus de la Syrie et de l'Irak. Vous avez vu en ce moment comment ça se passe en Syrie et en Irak et au Liban? Je ne sais pas, moi je vous l'ai dit déjà, mais quand même, je ne veux pas que vous pensiez que je suis un politicien, mais quand vous regardez l'actualité internationale, comment l'Iran est en train de armer le Hezbollah, tout ça, etc., je peux vous dire, cette guerre, elle sera là-bas. La preuve, c'est que c'est au-dessus de l'Euphrate. Et ce soit en rentrant, si vous tapez sur Google, vous tapez l'Euphrate et vous allez voir que l'Euphrate part de la Turquie, le bas de la Turquie, traverse la Syrie et l'Irak et se jette dans la mer. Donc c'est une guerre qui va arriver là, en Irak et en Syrie. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'il tue le tiers des hommes. Franchement, pour tuer le tiers des hommes aujourd'hui, je pense que le seul moyen, c'est une guerre atomique. Les guerres conventionnelles, je ne vois pas comment on pourrait tuer 2 milliards 500 millions d'hommes. Mes frères et sœurs, tout ça, ça va arriver. Ça va arriver après l'enlèvement. L'Église ne peut absolument pas connaître ça. C'est impossible. Et je peux vous dire que tout ça va se mettre en place et c'est en train de se mettre en place. Et moi, je crois, mes frères et sœurs, que si je vous parle sur le jugement, ce n'est pas pour vous effrayer. Bien au contraire. Hein. Parce que, tiens, on peut le lire juste après. Regardez dans Apocalypse chapitre 16, versets 5 et 7. C'est quand même important. Vous savez que Dieu vous aime, que Dieu aime l'Église, que Dieu nous protège, que Dieu est infiniment patient, etc. Regardez cette parole. Apocalypse 16, verset 5. « J'entendis l'ange des eaux qui disait, regardez bien, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, voyez, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Tout est préparé. Dieu ne fait pas les choses à la légère, au petit bonheur, la chance. Ces choses sont préparées pour l'heure même. C'est contrôlé par Dieu. Dieu contrôle tout, il est tout puissant. Mais il nous a laissé faire parce qu'il nous a laissé libres. Maintenant, c'est à nous, comme nous avons choisi de venir écouter la parole de Dieu. Bien sûr que je suis persuadé qu'il y a plein d'églises dans le monde où ce soir on aura prêché sur l'amour, et l'amour, et je ne suis pas sûr qu'ils auront mal fait. Mais mes frères et sœurs, le jour du jugement arrive. L'Église ne le connaîtra pas, ce jugement. Je le répète, ces jugements sont justes et véritables. Si nous méritons d'être repris, c'est une grâce. Jésus dit dans l'Apocalypse, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. » C'est une grâce d'être corrigé. Vous le croyez? C'est une grâce. Si on vous dit, « Mais tu es tiède, redeviens bouillant. » Tu as abandonné ton premier amour. Retrouve ton premier amour. Moi, je dis que c'est une bénédiction qu'on puisse entendre Dieu. Oui ou non? C'est une immense bénédiction. Ce matin, je priais, je pensais à ce texte-là qui fait allusion à l'avant-dernier chant qu'on a chanté, quand il dit « Mais malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. L'argile dira-t-elle au potier ?» Mais c'est tatati tatata, nous n'avons pas contesté avec Dieu, nous avons une immense dette, une immense reconnaissance à avoir avec lui. Et si vous êtes exempt du châtiment, écoutez-moi bien, si vous êtes exempt du châtiment, je vous plains. Parce que la Bible dit que les enfants qui sont exempts du châtiment sont des enfants illégitimes. Les rétrogrades, ils sont contents. Dis-moi, je suis à l'abri. Enfin, je suis à l'abri, je suis plus repris par Dieu. C'est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 8, que ceux qui sont exempts du châtiment, il y a une version d'ailleurs qui dit, ce sont des bâtards. Bien sûr qu'on n'ose pas prononcer ça. Ça veut dire des enfants qui n'ont pas de père. Et moi, je les plains, les chrétiens qui n'ont plus Dieu pour père. Et quand vous entendez, non mais je vous le dis, c'est archi grave. Quand vous entendez de plus en plus qu'on ne peut pas perdre le salut, quand vous voyez ces textes dans les Hébreux, dans toute la Bible, mes frères et sœurs, heureux ceux qui sont châtiés par le Seigneur, heureux ceux qui aiment être repris, heureux ceux qui disent « Oh Seigneur, merci, je sais que tu m'aimes, je sais que tu ne veux pas que je partage le jugement. » Tous ces textes, mes frères et sœurs, sont là pour nous servir d'exemple. Oui, Dieu nous aime. Et Dieu nous a prouvé son amour. Mais si vous ne le croyez pas, lisez toute la fin des évangiles et vous verrez qu'au calvaire, le Dieu du ciel et de la terre, parce que sur la croix, c'est Dieu qui est dépouillé de sa gloire. Et si quelqu'un peut lutter avec ça, eh bien luttez, mais vous allez mal lutter. Mes frères et sœurs, nous moissonnerons pour la gloire ou nous moissonnerons pour les ténèbres. Moi, je préférerais qu'on témoigne tous qu'on est prêt pour la gloire. Alléluia. Alors demandons-lui de l'aide. Est-ce qu'il nous aidera le Seigneur? Oui. Est-ce qu'il nous portera? Oui. Le Seigneur est notre aide. Que son nom soit béni. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ton immense bonté, pour ton amour, pour ta patience, pour ta longanimité, et toutes ces choses ne peuvent que nous pousser à l'obéissance joyeuse. Seigneur, nous te prions pour tous ces gens qui ne savent même pas, comme l'autre 24 heures avant, qui ne savaient pas que cette ville et sa maison allaient être détruites par le feu. Seigneur, tu vois tout ce monde, ce pays de France, qui ne sait même pas que la colère va finir par les atteindre. Nous te prions d'avoir pitié de tous les fils prodigues et de nous donner, Seigneur, ce cœur plein de repentance, ce cœur pénitent, ce cœur heureux de changer et de faire des progrès. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, si nous méritons d'être repris, eh bien reprends-nous, Seigneur. Reprends-nous et nous l'accepterons joyeusement. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.